Donc on va commencer avec l'unique table ronde de l'après-midi pour finir tôt. Donc logiquement à 16h30 vous êtes libéré. Voilà. Donc je te laisse la main, Roman. Merci.
Voilà. Alors la dernière et unique table ronde est intitulée Expérience, innovation et travail interinstitutionnel. Quel dispositif d'accompagnement pour les adolescents difficiles? On a vu avec les intervenants, on va s'organiser de cette façon-là. Chaque intervention durera environ 20 minutes et il y aura 10 minutes de questions-réponses entre chaque intervention. Et je laisse la parole à Monsieur Alessian, qui est pédopsychiatre.
Bien, merci. Encore merci à l'OSPER de m'avoir invité à partager ce temps de travail avec vous. Pour moi, la rencontre avec l'OSPER, elle date maintenant de plus de 20 ans. À un moment où j'avais d'autres responsabilités en administration centrale pour la PJJ, et avec cette grande chance pour cette époque de pouvoir rencontrer différents services et différentes situations innovantes déjà à la fin des années 90. Et donc c'est par la PJJ de Lyon que j'ai pris connaissance des travaux de l'OSPER. Et puis par ailleurs, j'entendais des personnalités, je pense chez vous, comme Sassolas ou Furtos, enfin, parler dans des congrès. Donc j'ai toujours été très intéressé par la démarche lyonnaise, son inventivité, et qui, pour moi, fait un peu envie aux Parisiens que je suis, parce que j'ai l'impression que parfois, dans les régions, vous arrivez quand même plus rapidement à rendre opérationnels quelques projets. Donc, en tout cas, je suis très heureux de vous rejoindre aujourd'hui donc, dans ces travaux, bon, qui dépassent bien sûr la région de Lyon. Mais... Voilà. Alors, pour moi, oui, donc je suis psychiatre et pédopsychiatre. Je suis le coordinateur clinique de la Maison de l'adolescent du Val-de-Marne, qui est un dispositif qui a été mis en place en 2007, et qui approche maintenant à grands pas des derniers jours pour être une nouvelle structure à partir du mois de février 2017. Donc, ce que je vais vous confier aujourd'hui, c'est une tranche de travaux donc, qui se veut un peu expérimentale, innovante peut-être pas, parce que je sais que dans les régions, vous faites vraiment beaucoup de choses, mais en tout cas, une expérimentation de travail qui déjà au niveau de la gouvernance a associé le Conseil Général à l'époque, l'ancienne DAS qui est devenue aujourd'hui l'Agence Régionale de Santé, et puis les services du préfet pour la cohésion sociale. La complication initiale de ce trio est qu'ils ont voulu associer pour créer une maison des adolescents les points accueil écoute jeunes, ce qui était très heureux du point de vue de l'antériorité des pratiques des points écoute jeunes, mais qui a créé une situation difficile de gouvernance parce que du coup pour toute décision j'avais 7 têtes devant moi pour obtenir des franchissements. Donc c'est ça qu'on va arrêter prochainement et qui va donner, je pense, très heureusement, une nouvelle structure. Alors, je rappelle brièvement pour les maisons des adolescents qu'on a pu définir dans les différents conseils régionaux et nationaux, scientifiques, conseils d'administration, une stratégie de l'accueil des publics adolescents. Donc tout d'abord une stratégie dite « basse-œil » pour les administrations, qui est en fait un accueil généraliste, où tout adolescent peut franchir la porte, quelle que soit la raison. C'est-à-dire qu'il n'y a pas la nécessité d'un symptôme ou d'une souffrance, a priori, pour qu'un adolescent puisse pousser cette porte. Par contre, il y a une contrainte pour ce qui s'appelle une maison des adolescents, c'est qu'il y ait bien des professionnels qui puissent le recevoir et des professionnels qui représentent différents métiers. C'est-à-dire que ce ne peut pas être uniquement une structure sanitaire, même si elle dépend de l'hôpital, c'est une structure où les professionnels représentent le monde de la santé, avec la pédiatrie, la pédopsychiatrie, voire la psychiatrie générale, le monde éducatif, les travailleurs donc, du champ social, les assistantes sociales, et donc un réseau qui peut mobiliser et déléguer sur les maisons des adolescents un certain nombre de professionnels, des conseils juridiques ou autres. Donc ça, c'est une constante pour toute la France, c'est un cahier des charges. Il y a un accueil généraliste qui doit se mettre en place pour tous les adolescents, quels que soient leurs besoins, et sans définir un motif de type pathologique pour pouvoir accéder à cette maison de l'adolescent. Derrière cette ligne d'accueil, qui est l'accueil généraliste, il y a une ligne plus particulière qu'on appelle l'accueil spécialiste. Donc, suivant les maisons des adolescents, certaines sont avec des structures très hospitalières. Ils intègrent, par exemple, les professionnels du soin, dermatos, gynéco, médecins généralistes ou psychiatres, dans leur accueil, dans les murs même de la maison de l'adolescent. Donc c'est une deuxième étape qui peut être éventuellement définie après la rencontre avec l'adolescent. et qui va permettre pour la première ligne de faire un travail d'orientation, donc soit vers des professionnels qui sont dans nos murs, ce qui n'est pas le cas pour les Val-de-Marne, soit des professionnels qui sont dans le réseau. Et donc ça, c'est le cas du Val-de-Marne, c'est-à-dire que ce Val-de-Marne bénéficiait d'une antériorité avec beaucoup d'unités et de services de médecine pour adolescents, de pédopsychiatrie pour adolescents. Donc nos financeurs n'ont pas voulu créer un nouvel hôpital pour adolescents, entre guillemets, mais ils ont décidé que la mission en termes d'accueil spécialiste pour les adolescents était de travailler en réseau et de faciliter l'accès aux soins ou l'accès à d'autres services comme les espaces solidarité, les espaces juridiques, les espaces éducatifs spécialisés. Donc c'est soit une équipe interprofessionnelle aussi qui est dans la maison des adolescents. Je pense que Le Havre est encore sur ce modèle puisqu'il est fondateur de cette initiative. D'ailleurs, on parlait ce matin du séminaire Santé et Justice. C'est ici, donc, dans ce séminaire Santé et Justice, qu'on a présenté la maison de l'adolescent du Havre et que Claire Brisset s'en est saisie pour en faire une lettre, enfin son rapport, et qui a préconisé donc la création d'une maison des adolescents dans chaque département. Donc, accueil généraliste, accueil spécialiste, et pour le Val-de-Marne, comme pour un bon nombre de maisons des adolescents, on a l'accueil des professionnels. Donc, sur l'accueil généraliste et l'accueil spécialiste se présentent les adolescents ou les parents d'adolescents, et sur ce qui est l'accueil des professionnels, le Val-de-Marne a mis en place un pôle ressources qui reçoit dans différentes possibilités de travail donc des professionnels qui veulent rencontrer d'autres professionnels pour tenter d'élucider certaines difficultés, faire des avancées dans certains domaines. Le Val-de-Marne, donc, on a mis en place différents outils, un séminaire pour les professionnels, ils s'inscrivent à la carte par le site, un atelier où là c'est une équipe d'une ville ou une équipe d'un service qui vient nous demander de travailler sur un projet précis qu'ils portent. Par exemple, les médecins généralistes du Val-de-Marne nous ont demandé de les aider à se former à la médecine d'adolescents. Donc 12 fois, 2 heures, on recevait chaque année donc les médecins. Un projet réussite éducative qui s'était mis en place sur Choisy-le-Roi, travaillait beaucoup avec les adolescents, puis il s'est aperçu qu'en fait il allait avoir beaucoup de travail avec les adolescents. Il travaillait beaucoup avec les enfants, pardon. Il y avait beaucoup de travail qui émergeait avec les adolescents. Et là, ils ont demandé une formation donc pour être formés au travail avec les adolescents. La condition qu'on met pour mettre en place ces actions, c'est qu'on mobilise à chaque fois un réseau. C'est-à-dire qu'on ne reprend pas une filière de formation que chacun trouverait dans sa propre institution, mais un réseau qui est, par exemple, pour Choisy-le-Roi, on mobilise le CMP, le Centre municipal de santé, d'autres services. C'est à chaque fois l'occasion, donc l'opportunité, c'est la philosophie qui apparaît ici aussi tout au long de la journée, c'est de se mobiliser à plusieurs métiers autour de ces enfants adolescents. Voilà, donc parmi les missions, on a eu, à la demande du préfet et du président du conseil général à l'époque, donc la mise en place d'une commission dite de cas difficile, qu'on a appelée ensuite commission d'études de situations difficiles, et qui a été définie de cette manière. Une équipe pluridisciplinaire doit se regrouper au pôle ressources pour écouter un professionnel ou une équipe qui a besoin de travailler et d'être aidée à propos d'un adolescent qui s'avère en situation compliqué, en voie d'aggravation. Il a été tout de suite dit que cette équipe, que cette instance de travail n'aurait pas une délégation de pouvoir. C'est-à-dire que, par exemple, notre tour de table est composé du magistrat, des médecins des urgences, des espaces solidarité, de la MDPH, etc. Ce ne serait pas un lieu de décision, il n'y aurait pas de délégation de pouvoir. Le magistrat, bien sûr, ne prendrait pas de décision là. Le praticien hospitalier des urgences ne prendrait pas de décision là. Par contre, il y aurait à remobiliser des élans de travail, des ressources de travail pour l'équipe donc, qui vient nous voir. C'est ce qu'on a fait. On a bien sûr... alors, je sais que cette expérience a lieu dans plusieurs endroits. J'en ai entendu ce matin. Et je sais qu'à Grenoble aussi, il y a eu d'énormes avancées sur ce type de travail. Nantes, j'entendais Toulouse tout à l'heure. Donc, ce sont des lieux, bien sûr, qui portent ce modèle qu'on affine un peu chacun à notre manière. Mais voilà. Donc, c'était cette commission dont je vais vous parler, dans la mesure où... elle a été pendant 10 ans un lieu qui a été fortement investi par des professionnels. Essentiellement, vous allez voir les professionnels de l'aide sociale à l'enfance, avec des demandes concernant des situations qui s'avèrent être, je pense, des situations qui, dans l'aggravation des difficultés, sont malheureusement encore plus avancées que, en tout cas, nous, on l'aurait souhaité pour en parler. Je vais essayer de m'en expliquer là. Alors, c'est ce bilan que je présente. J'ai présenté, je crois qu'il y a un effet Larsen, là. J'ai peur que ça soit un peu désagréable pour le... Non, ça, vous n'avez pas le Larsen, ça va. Bon, je vais peut-être me mettre un peu plus loin, pardon. Donc, cette étude, je l'ai présentée au mois de mai à l'ensemble des professionnels du département qui se sont regroupés dans une journée d'études, qui se veut être une première journée d'études dans la mesure où un certain nombre d'institutions, précisément de l'aide sociale à l'enfance, se sont plaints, il y a 2-3 ans, des difficultés à mettre en place un travail concerté avec la pédopsychiatrie. Donc ils sont venus nous voir pour nous demander de mettre au travail cette difficulté et, entre autres, se plaignant aussi de certains déroulements qui ont eu lieu dans la commission d'études de situations difficiles. Donc quand j'en ai parlé aux pédopsychiatres, les pédopsychiatres m'ont dit « bah oui, il y a des difficultés, on les ressent, et nous aussi, on veut se mettre au travail avec ces équipes, on te passe le pilotage de ce projet ». Ça a donné une première journée d'études, donc où j'ai présenté les situations donc, qui ont été... reçu par cette commission où les professionnels, aussi bien de la pédopsychiatrie que des espaces solidarité, que des foyers du département, donc viennent travailler avec nous. Donc en fait, il s'agissait de collecter un certain nombre de résultats et de travaux que je leur ai présentés. Alors, donc c'est un travail, je viens de vous le dire, qui a été mis en place. On a tenu sur de 2008 précisément, de janvier 2008 à décembre 2015, 201 séances et ça concernait 128 situations. Donc 128 situations, il faut voir par exemple que l'aide sociale à l'enfance dans le Val-de-Marne a un peu plus de 2000 situations chaque année à gérer. Donc il faut être prudent par rapport... à ce nombre, parce que c'est vrai que c'est un peu massif, mais ce que je veux dire, c'est que ça ne représente pas tout ce qui se passe à l'aide sociale à l'enfance ou tout ce qui se passe à la PJJ. C'est une loupe sur une partie de la population qui est en difficulté, et ces professionnels, donc avec cette population aussi en difficulté, qui viennent nous voir. Donc les espaces solidarité nous ont présenté 65 situations, la PJJ 29 situations, le secteur associatif habilité 18, les placements familiaux 4, le tribunal pour enfants est venu aussi travailler avec nous, les commissariats par les psychologues, la pédopsychiatrie et la psychiatrie générale aussi, ITEP, et à ma grande surprise, la dernière année, donc l'Institut Gustave Roussy qui est venu nous parler de situations d'enfants en soins palliatifs, dont abandonnés donc, aux soins par leurs parents. Donc avec une détresse bien sûr des professionnels de l'Institut Gustave Roussy. Alors, sur ces situations, donc 81 garçons, 47 filles, et à peu de différence près, 15 ans et 3 mois pour ce groupe d'âge. Ce qu'on a vu pendant cette période, bien sûr, ce sont des vulnérabilités, et une notion que je veux introduire ici, qui fait écho aussi à une notion qui a été présentée par un médecin qui travaille avec l'OMS, Christopher Micton, et qui a présenté à Lyon dans les... travaux de politique de santé publique il y a 3-4 ans, ces diapositives sur ce qu'il a appelé les adversités qui surviennent durant la vie, durant l'enfance. Et donc, quand j'ai récolté l'ensemble de ces données, il y a quelque chose qui est apparu extrêmement constant, c'est que la première réponse qui a été donnée à ces adolescents, quand on a, dans la démarche de la commission, bien sûr, je ne le redis pas, mais il y a toute une démarche d'historicisation hein, qui est reprise et qui a été bien montrée, par exemple, aussi ce matin dans l'exemple qu'on a vu. J'ai été étonné, en fait, de constater que pour la plupart des situations, on va voir le nombre, l'événement de l'adversité est survenu avant l'âge de 3 ans pour tous ces adolescents dont on nous a parlé. Alors, la particularité de l'adversité, c'est qu'elle se manifestait, en fait, par non seulement par la souffrance qu'avait l'enfant à cet âge-là, mais que la réponse, la première réponse qui était donnée à l'enfant dans cette situation, était elle-même déjà mise à mal. Je vous donne un exemple. On nous parle d'un garçon de 17 ans qui est hospitalisé en psychiatrie. La psychiatrie pense qu'elle n'a pas trop à gérer cette histoire. Elle veut que la ZEU reprenne la main très vite. Il a été hospitalisé en psychiatrie après avoir poignardé au ventre le monsieur du placement familial. Il était en placement familial donc en Bretagne. Il a été hospitalisé. Et quand on a repris l'histoire de ce garçon, on voit que la première réponse aux difficultés dans lesquelles il était, difficulté suivante, à l'âge de 2 ans, donc il est l'enfant de 2 parents toxicomanes, le père est parti de la maison, la mère se défenestre, et donc l'enfant est confié par l'administration aux grands-parents maternels. Et 1 an plus tard, les grands-parents abandonnent, ils disent « on n'y arrive pas ». Première réponse, on n'y arrive pas, 2 ans et demi. Voilà. Donc c'est ça ce que j'appelle l'intrication adverse, c'est-à-dire il y a une souffrance et la première réponse déjà est mise à mal. Bon, précision pour le mot adversitas, donc c'est un sort qui est hostile, contraire, et qui vient très tôt, là, dans l'histoire de nos adolescents, qui met à l'épreuve donc, la vie de l'enfant. Donc, avant l'âge de 3 ans, 115 enfants sur 128 situations d'enfants qu'on a reçues. Alors, on n'a pas de présélection. Hein. La condition pour venir nous voir, c'est un accueil téléphonique. On reçoit parce qu'on a une place dans un délai qui semble encore décent de travail. Environ, on a essayé en général de travailler à moins de 2 mois de délai. Sachant que ces situations, on les a explorées pendant une première séance de 3 heures et une deuxième séance de 3 heures à l'issue de laquelle on remet aux équipes qui sont venues de travailler avec nous un document écrit pour faire l'anamnèse des 2 séances et aussi les préconisations qui ont été travaillées pendant les séances. Alors, ce qui me semble important, c'est l'âge. Parce qu'avant 3 ans, c'est à dire que ces enfants sont pris en difficulté avant l'apparition du langage ou au cours de l'apparition du langage, de la mise en place du langage, à un moment où il y a un développement cognitif et neurocognitif très particulier, puisque c'est toutes les sphères du langage qui vont se mettre au travail. Les émotions elles-mêmes vont être régulées différemment des premiers mois de la vie par les échanges avec le langage. Et où il y a des nouvelles identifications qui se mettent au travail entre l'enfant et d'autres adultes qui vont être près de lui. Et c'est aussi l'âge où il va y avoir les premiers récits de vie, c'est-à-dire les premières histoires. L'enfant va parler de sa mère qui est la plus belle. Il va parler de son père qui va l'emmener sur un vélo, sur une mobylette ou en voiture quelque part. C'est un récit qui commence. Or, ces adversités connues, donc elles sont quand même de l'ordre d'une violence, telles qu'elles ont été définies par l'OMS. Et c'est là où je vais montrer un des résultats du docteur Micton, qui a fait une étude au niveau international, et qui a repéré, entre autres, le nombre d'adversités durant l'enfance et de dépressions durant la vie. Donc vous voyez ici, pour les filles et les garçons, que le pourcentage de déprimés augmente tout au long de la vie suivant le nombre d'adversités qu'a connu l'enfant dans la première enfance. Alors les adversités, ce sont les différentes difficultés qui se présentent. Là, par exemple, cet enfant qui perd sa mère d'un suicide, première adversité, le père absent. Troisième adversité, des grands-parents qui abandonnent au bout de quelques mois, qui n'y arrivent pas. Le juge va ordonner donc un rapprochement du père, mais le père est retrouvé plus ou moins errant sur les bords du lac de Créteil, il vit sous une tente. Donc, vous voyez, même les décisions prises constituent des adversités. Alors, les conséquences d'adversité durant l'enfance, elles amènent à des résultats, pour les études du docteur Micton, à des résultats catastrophiques, avec une mort prématurée. Je voudrais reprendre ici un travail aussi qui a été présenté il y a une quinzaine d'années par une école britannique de santé publique et qui a mené une étude pendant 40 ans et qui a suivi une population donc choisie dans une cité de la banlieue de Londres, et une cité extrêmement défavorisée à la fin des années 50, avec tous les problèmes qui ressemblent à nos cités aussi, qui sont en difficulté aujourd'hui dans certains quartiers. Et ils ont choisi dans des écoles primaires de comparer l'évolution d'un groupe d'enfants qui, pour certains, était caractérisé par une déscolarisation. La déscolarisation étant comprise à l'époque en Angleterre comme une conduite antisociale. Et ils ont comparé l'évolution de ces enfants aux autres enfants dans la même école et dans le même quartier. C'est-à-dire qu'on sort de ce qui a été dit ce matin, des hypothèses sociologiques, qu'on compare des enfants et des familles de quartiers différents ou de classes sociales ou de classes et d'éruditions différentes. Donc là, ils prennent la même population. Et ces enfants, donc, ils sont revus à 18 ans et puis à 40 ans. Alors, le taux de décès à 40 ans est 4 fois supérieur aux enfants qui ont été dans le même groupe et dans les mêmes classes qu'eux. Le taux de maladie chronique est 4 fois supérieur. Le taux de traumatisme et de conséquences de conduite à risque est 4 fois supérieur. Bon, mon temps est compté. Donc, pour conclure, parce que j'y suis, on m'a donné le message. Ce que je voudrais dire, c'est que pour moi, l'hypothèse... Alors, on ne parle pas toujours des mêmes adolescents, même, hein, depuis ce matin, entre la radicalisation, la nuance qui a été apportée du fond de la salle pour dire « Attention, qu'est-ce que c'est que cette affaire ?» Bon, là, je vous parle de ces situations où les destructivités qui ont été évoquées ce matin sont à l'œuvre. Et pour moi, je fais une hypothèse. Je fais une hypothèse qui est que les enfants, aujourd'hui, ne sont pas... pas suffisamment compris pour ce qu'ils sont dans le temps de leur développement, et qu'on plaque de plus en plus sur les enfants des réflexions qui viennent du monde des adultes, des évaluations, des répressions au pénal pour des enfants de 14-15 ans qui vont faire des choses très graves, très sévères, mais qui ne sont pas compris comme des enfants. Alors que toute l'école de la protection de l'enfance en France, et comme l'école de la pédiatrie et comme l'école de la pédopsychiatrie, a défendu cette hypothèse du développement et de préserver qu'au fond, des choses graves peuvent survenir, faites par des enfants. Un autre exemple, une fille de 12 ans qui nous est signalée pour une déscolarisation il y a 7-8 ans, et dont on nous parle, elle apparaît donc comme déscolarisée, elle reste chez elle, donc il y a un signalement. On voit cette jeune fille et on la découvre dans une situation particulière qui est qu'au fond, elle a une activité, elle a une vie relationnelle et sexuelle, agit à la maison. Elle vit auprès de sa mère. Le jeune homme avec qui elle a ses relations sexuelles, c'est une relation consentie, consentante. Et donc, on s'interroge sur ce que veut dire ce consentement. Bon. Je ne vais pas vous refaire toute l'histoire, mais 4-5 ans plus tard, on retrouve cette jeune fille devenue jeune adolescente, qui pourtant était déjà active sexuellement à l'âge de 12 ans, dans une situation qui ressemble plus à de la prostitution et qu'on recroise par le biais d'une consultation de médecine d'adolescent, entre autres pour des problèmes de maladies sexuellement transmissibles. Donc, je pense que les réponses qu'on avait à l'époque autour de cette jeune fille n'étaient pas ajustées. Elle nous a été présentée comme une adolescente, avec une activité sexuelle consentie et par la mère et elle-même consentante. Or, on ne peut pas aborder cette situation avec de telles idées, je crois. Il faut qu'on comprenne qu'à 12 ans, même une fille déjà un peu formée, elle n'est pas encore dans le cadre de cette adolescence. Donc je crois qu'on met aussi dans l'adolescence un certain nombre de problématiques qui sont encore celles de l'enfance. Et entre autres, certaines des violences de l'adolescence. Voilà. Donc, on a parlé aussi ce matin, je termine avec ça, de l'évolution par la mondialisation et la mondialité. J'ai bien aimé ce concept, moi, que j'entendais pour la première fois. Ce que je veux dire, c'est qu'il me semble aussi que ce monde de l'enfance est aujourd'hui, par la mondialisation, aspiré dans beaucoup de choses. Ce ne sont pas des aspirations de l'enfant qu'on a à aller vers un certain nombre de comportement. On a des enfants qui sont aspirés par les médias, qui sont aspirés par les réseaux sociaux dans des comportements qui les désocialisent et qui les perturbent gravement. Donc moi, je vois l'effet de la mondialisation comme un effet obligé, mais pour lequel on n'a pas encore trouvé des outils éducatifs. Bien, voilà, je vais m'arrêter là.
Bon, je propose d'ouvrir directement le temps des questions. Excusez-moi, merci.
Deux micros disponibles. Oui.
J'avais une question un peu pratique sur le déroulement des commissions pour cas difficiles, situations difficiles que vous aviez organisées. Je voulais savoir si c'était, c'était uniquement auprès des professionnels et autour d'un travail entre guillemets sur dossier, ou est-ce que ça impliquait une rencontre des adolescents ou une présence des adolescents
Alors ça a été évoqué au début, la possibilité de travailler avec ou sans les adolescents. Le parti qu'on a pris, parce que ça a été très collégial, cette décision, c'est que les professionnels voulaient un espace pour eux. Et cet espace, ils voulaient y retrouver une respiration, une créativité. Et donc, ils ont souhaité qu'on travaille sans les adolescents et leurs parents. Par contre, il reste cette obligation légale qui est que l'adolescent doit être prévenu et ses parents ou les responsables, les tuteurs légaux, doivent être prévenus des travaux qu'on fait et des résultats des travaux qu'on fait. Donc toute la rédaction que j'ai faite pendant ces 10 années de ces documents a été une rédaction qui tenait compte de l'hypothèse que ces enfants ou ces parents puissent avoir connaissance, peut-être pas lire tout de suite le document, mais aussi avec l'hypothèse qu'un document comme ça peut être exigé par un avocat à tout moment. Donc je faisais aussi cette écriture dans... Alors bien sûr que les documents étaient relus par les collègues qui participaient à la commission avant qu'on les remette aux équipes. Et les équipes elles-mêmes relisaient avant que je finalise la signature, c'est-à-dire qu'elles-mêmes, elles demandaient des remaniements dans ce document de travail parce que soit j'avais fait des erreurs d'information, soit ils voulaient avoir plus de compréhension. Parfois, mes écrits ont été trop psy. Donc, il me disait, là, je ne comprends pas. Donc, OK, on réécrit. Voilà, il y avait ce genre de choses. Mais ça a été au travail, ensemble aussi, au niveau du document.
Oui, je voulais juste savoir, dans quel cas le commissariat vous sollicite pour avoir votre avis ? Un exemple, par exemple.
Quel cas ?
Dans quelle situation ? Est-ce que vous pouvez nous donner un exemple ?
Ah, pour le commissariat.
Ou le juge, d'ailleurs.
Oui, alors pour le commissariat, les exemples, c'était... je ne les ai pas en tête là tout de suite. Alors, d'abord, il faut se rappeler que ce sont les années où arrivent les psychologues recrutés pour le ministère de l'Intérieur pour les commissariats. Et qu'a priori, leurs missions sont plutôt orientées vers les adultes et pour la prise d'informations... d'adultes, enfin pour aider des adultes dans des situations soit essentiellement de victimes, mais aussi parfois intervenir dans certaines gardes à vue. Mais pour les mineurs, c'était des enfants qui... c'est par la brigade des mineurs, en fait, qu'à un moment donné, il y avait une demande que la psychologue du commissariat voit. Donc c'était en général au décours de faits graves, puis quand même une garde à vue, c'est rare pour des mineurs, de faits graves et puis de troubles psychologiques qui inquiétaient les policiers. Voilà. Pour le magistrat, ça a été extrêmement... Il y a eu 4 situations vraiment très différentes, dont une a vraiment failli faire le clash entre les services éducatifs et moi parce que j'avais accepté de travailler avec un magistrat. Moi, je prends comme une hypothèse éthique que quel que soit le professionnel qui a à réfléchir avec des adolescents, il doit pouvoir venir à la maison de l'adolescent, même si c'est le procureur, même si... Donc, et là, j'ai été pris à partie sur le mode on ne peut pas travailler avec un magistrat dans la mesure où il va s'inspirer des faits pour lesquels... des réflexions que vous partagez avec lui et vous infléchissez le jugement alors même que vous n'êtes pas commis comme expert ou autre. Donc ça se tient. Et à la suite de cette histoire-là, donc on a décidé qu'on ne ferait aucune commission dans un délai inférieur à 8 jours avant une instance de jugement pour les adolescents. Est-ce que c'est clair ce que je dis ? C'est qu'on a pris un délai de précaution pour que les équipes éducatives elles-mêmes qui sont impliquées par l'adolescent, impliquées dans la situation d'adolescent, puissent avoir connaissance de ce qui avait émergé dans cette rencontre à laquelle ils étaient invités. Hein, ça s'est jamais passé sans eux. Les magistrats demandaient aux équipes de venir. Les situations, c'était des situations extrêmement dramatiques aussi, au pénal en général. Et une famille, par exemple, de 5 garçons gravement délinquants, dealers, qui avaient inscrit une espèce de no man's land dans leur quartier où il y avait extrêmement des violences extrêmes qui se déroulaient. Et donc, tous les travailleurs sociaux étaient arrivés au bout. Et le juge hésitait sur une forme de... Enfin, dans sa décision pénale, il hésitait sur beaucoup de choses. Entre-temps, l'aîné des enfants avait aussi poignardé sa mère, donc, qui a été hospitalisée. Enfin, ce sont des situations vraiment extrêmes. Vous voyez, donc, on était dans cet aspect-là. Hein. On n'était pas dans les aspects plus MDPH ou autres pour le travail. Donc les magistrats voulaient vérifier si on avait quand même des hypothèses psychiatriques. Donc à ce moment-là, j'ai mobilisé le psychiatre adulte hein, du secteur où était hospitalisée la maman après les faits, où avait été hospitalisé aussi le jeune garçon. On avait essayé de comprendre s'il fallait aller plutôt vers une hospitalisation. Il était très psychotique, hein, ce garçon, celui qui a... Voilà. Donc, en fait, on a élaboré sur un certain nombre d'hypothèses, entre autres culturelles. Hein, c'est une famille d'origine haïtienne qui avait quitté Haïti donc pour s'installer d'abord en Guyane, puis venir en France. Et on avait réfléchi à ce parcours pour comprendre en quoi la mère avait été débordée, déstabilisée par ses enfants. Et on a pensé quand même, et le psychiatre de Villejuif était aussi d'accord avec nous, que la mère avait quand même des troubles psychotiques elle-même, et que en fait, c'est là qu'il aurait fallu commencer à faire le travail. Mais lui, il l'a reçu pour la première fois longtemps après les faits. Alors, j'ai oublié de dire que dans les travaux de Micton, comme dans les nôtres, la prévalence des troubles mentaux chez les parents est très importante, beaucoup plus importante que dans la population générale. Ça aussi, c'est un facteur sur lequel on pense que la détection précoce, pas des souffrances précoces, mais des adversités précoces, devrait être une forme de réflexion interinstitutionnelle aujourd'hui, voyez, pour analyser autant la difficulté de la réponse que la difficulté que porte l'enfant ou sa famille.
Je